un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est un article fort documenté, signé Agathe Ranck et Doran Vignando et publié par l'Obs en mars 2023, qui donne la parole, comme nous le faisons également aujourd'hui, à ceux et celles qui sont au service des ultra-riches. Damien y évoque par exemple ce jour où un client lui demande de trouver et d'apporter 30 pingouins pour une fête qu'il organise sur les Champs-Élysées à l'occasion de son anniversaire. Des pingouins vivants, j'imagine. Lydia Lescher, autrice d'un livre intitulé « Bienvenue chez les riches », est aussi citée pour les manies qu'elle a pu observer, comme demander aux domestiques de plier les draps en éventail, d'effacer sur le gravier de la propriété les traces de pas après chaque passage de ses employeurs, de remplir de fleurs fraîches les 64 vases éparpillés dans le château, sans bien sûr renverser une goutte d'eau sur le marbre rutilant. Elle se souvient aussi de cette employeuse qui épiait les 15 domestiques à son service à la jumelle ou d'une autre qui cachait des petits objets pour vérifier que le ménage était bien fait. Évidemment, tous les ultra-riches ne sont pas aussi fous ou mesquins, c'est évident. Certains sont aussi malhonnêtes ou carrément voyous, comme on l'entend tout de suite dans ce deuxième épisode de notre mini-série « Butler, majordome, servante, des domestiques au service des ultra-riches, les arnaqueurs » par Antoine Guérimont.
Je m'appelle Emmanuel Fuseau, j'ai 46 ans et je suis gardien de propriété dans une propriété du 8e à Paris. Donc là, je m'occupe de tout ce qui est logistique intérieure de la maison, c'est-à-dire tout ce qui est ménage, le fonctionnement normal d'une maison, d'une grande maison, aux alentours de 2500 m². J'en ai connu des plus grandes, mais celle-ci est déjà pas mal. Je suis originaire des Deux-Sèvres. Je suis le sixième d'une famille de 6 garçons, d'une famille d'agriculteurs. J'ai toujours été passionné par la cuisine. Depuis l'âge de 2 ans, mon premier travail le matin, c'était de mettre un tablier. Et c'est toujours resté d'ailleurs, je mets toujours un tablier pour travailler. J'habitais en fait dans une ferme qui était proche d'un château à 500 mètres à peu près. Et ce château appartenait à une famille qui détenait le château depuis quand même plusieurs générations. Et mon grand-père à l'époque, dans les années 30, faisait encore des, ce qu'on appelait des corvées pour le propriétaire du château. Les corvées étaient des travaux qui étaient dus aux propriétaires du château et que les habitants des fermes appartenant au château devaient faire. Ma mère, dans les années 50, a travaillé dans ce château comme ce qu'on appelait à l'époque bonne à tout faire. Il y avait des réceptions, elle aidait pour le ménage, pour la vaisselle, enfin voilà. Mes tantes aussi ont travaillé là-dedans. Et moi, quand j'ai commencé le lycée hôtelier à La Rochelle, les week-ends, j'allais travailler dans ce château, mais pur plaisir, sans contrepartie financière, parce que j'aimais bien l'environnement du château, j'aimais bien le beau mobilier, la belle vaisselle, enfin voilà. Donc j'allais cirer des parquets, astiquer les cuivres, astiquer l'argenterie, et donc la propriétaire du château, qui est une comtesse, m'avait donné comme instruction de pouvoir venir aussi servir des dîners là-bas. J'étais très heureux parce que j'étais dans un environnement un peu différent de celui que je connaissais forcément. Et puis j'avais tellement entendu parler ma mère de comment se passaient les réceptions au château. Et je voulais un peu voir mes yeux comment ça se passait. On m'a toujours dit que j'étais un peu vieille France, mais là c'était le bon mot à ce moment-là parce que c'est des choses qui ne se voient plus, quoi. C'est servir à la française, servir au plat, à table, enfin des choses, sonner la cloche pour le changement de plat, enfin c'est des choses qui n'existent plus, voilà. J'ai fait 5 ans d'études au lycée hôtelier. Après le lycée hôtelier, j'ai commencé au Cap d'Antibes, chez des particuliers, chez des Russes, qui avaient acheté une villa récemment. C'était la première fois que je travaillais donc pour des particuliers, et je suis parti avec ma petite voiture dans le sud de la France, une région que je ne connaissais pas du tout. Et là, j'arrive devant une villa, mais splendide. Et c'était une villa qui avait 8 hectares avec des marches qui descendaient sur la mer et avec un port privé. Donc c'était quand même pas mal. Un jour, on me demande de partir à Orly, sur Paris, pour faire la livraison d'un sac. Donc on part, c'est lui qui m'emmène, je me souviens, dans sa décapotable, qui m'emmène à l'aéroport de Nice et il me dit ben voilà, mon chauffeur vous attendra à l'aéroport d'Orly. Vous lui donnerez le sac. Il me dit surtout, vous gardez le sac avec vous, vous ne le mettez pas en soute et vous ne l'ouvrez pas. Bon, moi, bête et discipliné, 25 ans, un peu naïf, je dis oui, ben, pas de problème. Je monte dans l'avion avec mon sac et je commençais un peu à tilter. J'ai dit, c'est un peu bizarre, mais enfin bon, je dis, c'est pas grave, voilà, je vais donner le sac et puis tout va bien se passer. J'arrive à Orly, on m'attend avec un panneau à l'aéroport d'Orly. Tout de suite, mon premier réflexe, c'est de donner ce fameux sac que j'avais, qui était lourd comme un âne mort, que je donne à la fameuse personne. Et là, la personne me dit, je vous attends avec ma voiture dehors. Je vais dehors et qu'est-ce que je vois ? Une énorme limousine sur une aire de stationnement en plus interdit. Et là, je vois le chauffeur avec des gens. Et là, je me dis, ah, ça doit être la douane. Bon. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais ? Je me mets à distance et puis j'attends. Et à un moment, forcément, les douaniers qui étaient en train de fouiller la voiture se sont rapprochés de moi et m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur ? Et je dis, je ne sais pas. Moi, on m'a dit, je suis parti ce matin de Nice, on m'a donné un sac, il fallait que je le donne à ce monsieur. Et puis voilà, d'accord ? Vous connaissez cette personne à qui vous avez donné le sac ? Je dis non. Il me dit, on va récapituler un petit peu les choses. Vous venez d'un endroit que vous ne connaissez pas pour qui vous travaillez, vous emmenez un sac, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, que vous donnez à une personne que vous ne connaissez pas. Et moi, je réponds tout bêtement, bah oui. Et donc là, il ouvre le sac, et là, qu'est-ce qu'on voit ? Des livres pour enfants en russe. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici à faire des heures de vol pour un sac avec des livres en russe ? Alors, soit j'emmenais quelque chose que j'ai transporté, ça ne s'est pas vu, bon, là, c'est passé. Soit j'étais testé, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un dans l'avion, j'ai jamais rien compris. Et sur ce coup-là, ça m'a un petit peu refroidi, donc j'ai pas voulu continuer avec ces gens-là. Et puis, je suis parti sur la Côte d'Azur, dans une des plus grosses villas de la Côte d'Azur. Toute la villa avait été restaurée, et moi j'effectuais le travail de majordome. La maison était très grande, c'était 4000 m² habitable. C'était quand même la démesure. Pour cette maison où ils étaient deux personnes, on était 56. Il y avait 36 gardes à l'extérieur, 7 jardiniers, 2 lingères. À l'époque, il y avait 2 cuisiniers. Les femmes de chambre, il y en avait je ne sais plus combien. Et puis, c'était une exigence au niveau de la propreté qui était poussée à son paroxysme. Pour vous donner une idée, c'était les vitres. Il y avait quand même 56 fenêtres dans la maison. À chaque fois qu'il pleuvait, il fallait renettoyer les vitres. Donc, je veux dire que faire les vitres, ça, je connais ça par cœur. Quand on passait la serpillière, on protégeait le seau, on mettait une serpillière sous le seau, on mettait une protection sur le balai pour pas qu'il raye le mur. Enfin, c'était, voilà. Le truc le plus fou, c'était qu'il fallait pas tirer les tiroirs trop vite pour pas bouger les petites cuillères, pour que les petites cuillères restent toutes dans le même sens. Et ménage au pinceau sur les meubles, pour pas les abîmer. Pinceau de soie de sanglier, parce qu'il fallait pas abîmer les dorures. Il fallait tout protéger, enfin, c'était l'horreur. Elle surveillait tout, enfin, c'était l'horreur. La patronne cachait des choses à des endroits pour voir si la femme de chambre passait à cet endroit pour que le ménage soit fait. Des mouchoirs derrière une poubelle, ou sous le lit, ou des choses improbables, qui n'ont pas lieu d'être, mais bon... Pendant les dîners, c'est toujours une priorité d'être le plus discret possible. L'employeur doit savoir qu'on est là sans être là. Il doit savoir qu'on est présent, mais en ne nous voyant pas forcément là. Je commençais à 8h le matin, mais je terminais souvent quand il y avait des dîners, je terminais vers 23h, minuit. Quand les propriétaires étaient seuls, je finissais plus tôt, vers 22h, donc c'était à peu près correct. Parfois, j'arrivais à m'échapper, enfin, à me reposer un petit peu dans l'après-midi. J'étais payé 3 000 euros. Voilà, ce qui était un salaire tout à fait correct. Mais reporter au taux horaire, ça fait pas un taux horaire très élevé. Donc, les semaines de 70-80 heures, c'était souvent. Voilà. J'appréciais énormément mon travail, mais j'ai du mal à dire non. Ça va parfois trop loin, quoi. Alors, je me dis, à un moment, c'est plus possible. Mais en fait, je quitte cette maison à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et j'ai eu l'occasion qu'un poste s'ouvre sur Bordeaux, comme majordome dans un grand cru classé dans le Bordelais. Et puis, j'ai eu un lymphome qui s'est déclaré en 2010. Et je suis parti pendant 10 mois en chimiothérapie. J'ai modifié un peu ma vision du travail par rapport à cette maladie, parce que j'étais dans un état de fatigue, mais très avancé. J'ai réussi à rebondir, et puis j'ai réussi à retrouver un emploi chez mon précédent employeur, où je suis resté 10 ans. Voilà, j'ai mis des bornes à mon travail, j'ai osé dire non. Non à trop. Je suis toujours fasciné par le monde dans lequel je travaille, le monde des richissimes et des nantis, comme on dit. C'est un monde qui me fascine, ça c'est sûr, parce que je me dis, moi ça m'a permis de voir des choses exceptionnelles, des Picasso que vous voyez tous les jours, de toucher de la vaisselle qui a 250 ans, enfin, des choses que vous reverrez pas, quoi. C'est... Moi, c'est ce qui m'émeut parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis un peu vieille France.
France Culture, les pieds sur terre.
Je suis Sébastien, actuellement house manager dans un domaine privé sur la Côte d'Azur à Mougins. House manager, en fait, on supervise les équipes, on gère l'équipe de ménage, on gère l'équipe de service, on gère le chef, on gère tous les gens extérieurs, par exemple le pisciniste, les jardiniers, voilà, tout ce genre de personnel. Et par extension, on est un petit peu, des fois, l'assistant personnel de monsieur ou de madame, selon les maisons. Assistant personnel, ça concerne toutes les demandes au jour le jour opérationnelles que, par exemple, madame peut avoir. Ça peut être « réserve-moi un spa » ou « fais venir une masseuse »,« réserve-moi un bateau pour aller à tel endroit »,« réserve-moi mon billet d'avion pour aller dans une autre maison que j'ai quelque part ». Voilà, c'est très varié. Au début, j'ai travaillé pour Four Seasons, donc c'était mon premier job. Four Seasons, c'est une chaîne hôtelière et moi j'ai travaillé pour un de leurs resorts aux Maldives avec des bungalows sur pilotis, des grandes piscines à débordement. J'ai travaillé ensuite sur des yachts. La première fois que je suis monté sur un gros yacht comme ça, c'était à Monaco, pendant le Grand Prix de Monaco. Je suis monté sur un bateau qui est très connu, qui s'appelle Lionheart. J'ai été recruté pour faire du service et en l'occurrence du Silver Service. Donc le Silver Service, en fait, c'est un service où on passe avec le plat et où on sert nous-mêmes la nourriture dans l'assiette du client. Le propriétaire du bateau avait invité vraiment beaucoup de monde. Je crois qu'il y avait au moins 220 personnes à bord. C'était l'anniversaire de Naomi Campbell. Il y avait Leonardo DiCaprio qui était présent. Après, moi, j'ai jamais été trop show business, ni célébrité, ni tout ça. Où je garde une certaine distance, en fait, avec tout ça. Mon premier salaire, je crois que j'ai dû commencer à 2500 euros net. Ensuite, j'ai évolué en tant que chef steward. Je sais que sur le dernier bateau où j'étais, je devais être à 5500 net. Donc ensuite, j'ai quitté les bateaux pour revenir à terre parce que j'ai rencontré quelqu'un. Et que quand on est sur les bateaux, c'est très très dur d'avoir une vie privée. Donc j'étais avec la personne avec qui je vis aujourd'hui et il a été muté dans la région de Toulouse. Donc pour pouvoir le suivre, j'ai commencé à chercher un travail dans la région de Toulouse et j'ai trouvé une offre d'emploi pour majordome dans un domaine. Donc on convient d'un entretien pour rencontrer le propriétaire du domaine, Monsieur C. Avant de commencer un job, je regarde toujours sur Internet qui est cette personne, si elle est connue, pour voir à qui on a affaire aussi financièrement. Donc pour Monsieur C, je regarde sur Internet, je ne trouve absolument rien. Donc c'est qu'il n'est pas connu, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, on y va quoi, on essaye au moins. Alors la première fois que j'arrive dans la maison, tout est joli. La maison déjà, c'est une maison d'architecte sur plusieurs niveaux avec un parc autour magnifique. Il y a une belle voiture luxueuse devant la maison, mais ce monsieur veut quand même augmenter son niveau de vie et c'est pour ça que je suis recruté. J'ai tout de suite un très bon rapport avec le staff qu'il avait déjà embauché. J'essaye de former le staff un peu plus pour qu'on arrive à un service d'excellence un peu plus affirmé. Au début, avec ce monsieur, on a de très bons rapports, une très bonne complicité, avec sa femme aussi. Donc j'étais très investi, le staff était aussi très investi. Il n'y avait pas trop de soucis à se faire, quoi. C'était un employeur comme j'avais eu dans le passé, avec beaucoup de moyens. Et puis il me mettait vraiment en confiance, il me montrait des relevés de compte, il me donnait sa carte de crédit pour que je paye des factures ou même pour aller faire des courses. Un jour, sa femme m'a demandé « c'est quoi votre rêve et tout, à quoi vous aspirez dans la vie d'un point de vue personnel ?» Donc je lui ai dit « c'est vrai que moi, avec mon ami, on aimerait bien ouvrir notre chambre d'hôte. On va faire un crédit à la banque, donc il faut qu'on ait un apport quand même assez conséquent pour pouvoir avoir ce crédit et aussi avoir un CDI. » Et puis elle commence à me dire « oui, vous savez dans quoi monsieur travaille, vous savez qu'il est dans le bitcoin et ça va beaucoup plus vite d'avoir des fonds dans le bitcoin, c'est vraiment un placement sûr et qui rapporte rapidement et beaucoup. » Donc c'est vrai que, ayant travaillé là-bas depuis quelques mois quand même, voyant comment ça fonctionnait, qu'il n'y avait pas de signe d'alarme à tirer plus que ça, je me suis dit, oui, pourquoi pas, j'ai des économies de côté, autant placer cet argent et qui me rapporte vite et beaucoup. Honnêtement, j'étais en confiance parce que il avait quand même de l'argent pour pouvoir payer autant de choses et avoir un rythme de vie et un train de vie comme il l'avait. Le bitcoin à l'époque, moi j'y connaissais pas grand chose, on entendait beaucoup d'histoires comme quoi, ça rapportait tant et rapidement et beaucoup. Donc pourquoi pas ? C'est vrai que j'étais tellement pris dans mon boulot à l'époque que j'ai pas cherché plus que ça. J'avais 50 000 euros de côté et il m'a convaincu de placer ces 50 000 euros et qu'avec ces 50 000 euros, en 5-6 mois, il en ferait 450 000 euros. C'est un peu comme gagner au loto, je trouvais ça incroyable. Alors, ils remettent ça sur le tapis souvent, puisqu'il n'y a pas que moi qui suis impliqué dans ces dons d'argent, puisque leur principale activité, c'était ça, en fait. C'était de trouver des gens qui veuillent bien placer de l'argent dans leur société de Bitcoin pour pouvoir faire fructifier cet argent. Je ne suis qu'une personne parmi tant d'autres qui va donner de l'argent et qui va profiter de cet Eldorado à la clé. Donc, de fil en aiguille, ils me convainquent de leur donner de l'argent. Il m'explique comment ça va fonctionner, c'est-à-dire qu'il me dit, l'argent, il va être viré sur un compte. Ensuite, vous allez pouvoir accéder à votre argent et voir comment il fructifie via ce site internet. On voit l'argent évoluer un petit peu, quoi. On voit l'argent passer de 50 000 à 52 000, puis revenir, enfin un peu comme la bourse, hein, comme le bitcoin. Alors quand il me donne l'accès au site internet, non seulement je passe mon temps, bien évidemment, à regarder l'évolution de mon argent, mais en plus je lui parle de ça, je lui dis « alors, comment ça se passe ? Là j'ai vu que le bitcoin il montait à fond, donc qu'est-ce que je vais avoir ?» Puisque c'est lui qui est responsable de ça, c'est lui qui est expert là-dedans, donc je me fie à lui vraiment. Au bout de quelques mois, je vois qu'il y a un jardinier qui revient vers moi et qui me dit que son chèque avait été rejeté. J'en parle à monsieur et monsieur me dit « Ok, dites-lui que si on peut payer en deux fois ou si on peut faire un virement à telle date, en gros, il me demande de le faire patienter. » Ensuite, une employée de la maison qui s'appelle Pauline, en allant consulter son médecin lui demande « Pour qui tu travailles maintenant ?» Et donc elle lui dit « Je travaille pour telle personne ». Et là, il lui dit « Mais ça va pas et tout, tu vois pas qu'il a été condamné il y a 4 ans au tribunal de Castres pour escroquerie ». Et là, elle m'en parle. Et là, je lui dis « Quand même, t'es sûr, c'est un peu gros, regarde, il est dans un espèce de château, ce domaine, avec cette belle voiture, puis toutes ces factures qu'on paye et tout, puis tout le staff qu'on emploie. » Évidemment, ça me semble bizarre, mais bon, au début, je me dis « Bon, c'est peut-être pas lui, quoi, je sais pas. » Pour l'instant, j'ai confiance encore. Et au bout d'un moment, je me rends compte que par d'autres canaux, il y a des problèmes de paiement. Il y a les chèques qui passent plus, il y a les cartes bleues qui passent plus, il y a les salaires qui ne sont pas payés. Là, ça fera 2 mois que les employés n'ont pas été payés. Donc évidemment, ils m'en rendent compte à moi. Les gens qu'on utilise de l'extérieur, comme je sais pas, les piscinistes, le jardinier, ces personnes-là viennent me voir et commencent à me dire « Mais est-ce que vous savez pour qui vous travaillez ?» Et donc, je dis « Ben non, je sais pas pour qui je travaille. » Que Monsieur C a déjà été condamné pour escroquerie 4 ans auparavant. À un moment donné, Monsieur C m'appelle, il me dit « Oui, il faut que vous veniez tout de suite. Il y a quelqu'un qui a écrit à la peinture sur la route devant la maison des menaces de mort. » On prend la voiture, on se déplace jusqu'au domaine. Et effectivement, sur toute la route, il y avait des menaces de mort marquées à la peinture. Donc, impossible de les enlever. Et là, il y a aussi un de ces anciens employés qui me contacte et qui me dit « Tu sais pour qui tu travailles, t'es fou de travailler pour lui et tout, tu vas te faire rouler comme tout le monde. » Donc là, après tout ça, tous ces petits éléments font que je cherche à savoir qu'est-ce qui se passe vraiment et où est l'argent, surtout. Puis là, le mois d'après, je me retrouve sans salaire. Donc je lui en fais part. Il me dit « Oui, 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 ça va arriver, ça va arriver. » Je dis « Oui, mais bon, comment ça se fait que ça n'arrive pas normalement comme chaque mois ?» Et il me dit « Ben, je vous donne un chèque ce mois-ci exceptionnellement. » Il me donne un chèque. Évidemment, le chèque est rejeté. Et là, donc pareil pour les autres employés, le chèque est rejeté. Donc au bout d'un moment, on décide avec Pauline, après avoir été travailler, d'aller à la gendarmerie et de porter plainte contre lui, puisqu'on n'a pas de salaire depuis 2 mois, et puis on voit bien qu'il y a une entourloupe. Et donc, à partir du moment où on a dit le nom de notre employeur, on a passé 3 heures au poste, puisque cette personne, Monsieur C, était bien connu des services de police, puisqu'il était sous surveillance, et qu'il avait arnaqué plus de 80 personnes, pour des montants allant de 100 euros jusqu'à 928 000 euros, voilà, dans la région de Toulouse. Donc lui, il utilisait cet argent clairement pour son compte personnel et pour nous payer, nous, nos salaires, en fait. C'est-à-dire que avec les 50 000 euros que j'ai placés, il a dû me payer 3, 4, 5 salaires, plus les salaires des autres employés, plus la nourriture, les frais d'essence, tous les frais de la maison, quoi. L'inspecteur chargé de cette affaire, il me dit « Ben, la seule chose que vous ayez à faire, monsieur, maintenant, c'est n'attendez même pas, allez de l'avant, et il y aura un procès un jour, mais voilà, il n'est pas solvable, donc ne vous attendez pas à avoir quoi que ce soit. » Nous, on a essayé après, ensuite, puisqu'on n'avait plus de réponse par email, on n'avait plus de réponse par téléphone, on essaye d'aller taper à sa porte, au début, de manière amical, entre guillemets, puis après un peu plus énergiquement. Mais monsieur C s'enferme dans sa maison, donc impossible d'avoir de réponse, en fait, et de savoir si voilà, si cet argent est définitivement perdu ou qu'est-ce qui va se passer, ou et en même temps j'attends aussi mon salaire, donc ça bien sûr ça n'arrivera jamais. Et donc voilà, on n'aura plus jamais aucun rapport. Moi, je ne l'ai pas revu depuis la dernière fois où je lui ai servi son repas. Et il s'est bien camouflé et il a bien disparu depuis. Ça, c'est clair. Donc, les mois suivants, c'est vrai que quand on se retrouve sans rien, sans argent, sans rentrée d'argent, sans la possibilité d'avoir le chômage, bah là, j'ai clairement fait une grosse dépression. Je me suis aussi beaucoup remis en question puisque on se dit, je suis vraiment naze, quoi. Je suis un moins que rien. Je perds confiance en moi, je perds confiance aux autres. Et puis voilà, il va me falloir bien 2-3 ans pour arriver à me remettre sur le devant de la scène professionnellement et même personnellement. Voilà, c'est un peu une honte, hein. Honte d'avoir été dupé, oui. Alors j'ai repris un travail, toujours en travaillant dans les maisons de luxe. Ça m'a quand même pas enlevé ma passion. Et donc là, je suis parti travailler pendant 2 ans et demi à Amsterdam, sur une maison de 8 étages, avec un monsieur qui possède un jet privé, un monsieur qui possède une maison secondaire à Ibiza. On voit bien que la personne est solvable, et on voit bien que la personne a Enfin, c'est pas le même statut, c'est pas le même rang, donc voilà, tout de suite on a confiance. Pour l'affaire de Monsieur C, donc il y a eu plusieurs appels à la cour et la première fois il ne s'est pas présenté, donc l'audience a été ajournée. La deuxième fois, il a fait croire qu'il avait fait une tentative de suicide, donc il a été interné dans un hôpital à Nouméa. Et la troisième fois, c'est le 28 mai prochain. Donc on verra quelle sera l'excuse cette fois-ci. J'ai toujours le rêve d'avoir ma propre maison d'hôtes et pouvoir mettre en œuvre toutes ces années de pratique de bon service, que ça fasse profiter aussi la clientèle qui viendra dans cette maison d'hôtes, d'avoir quelque chose d'un peu sympa, quoi, un peu différent. She crawled in inside, much to do tonight. All she cares for is someone to be by her side, someone out of sight. Someone who will care, someone who will share. Someone who'll give her peace of mind whenever not there. She does be right. Traveling the seas brought her to her knees. When I left it all behind, now who's she gonna see? Don't ask me. Calling our names as though we're not just all alike. Sounds all the same, makes you feel that you're alive. There's no one to blame, but are you seeing right? What is one night if it happens to be tonight? One can tell from the way they breathe, with a look that's a mixture of sorrow and joy in between. A sight to be seen. Can you trust at last when judgment is to be passed? Are you laying your eggs in one basket till you end up in a casket? I'm only asking.
C'était le deuxième épisode de notre mini-série Butler, majordome servante des domestiques au service des ultra-riches avec les arnaqueurs. Un reportage d'Antoine Guériment réalisé par Éric Lancien. Merci à Sébastien, à Emmanuel et à l'hôtel du rond-point des Champs-Élysées. Servir les riches, c'est un livre pour approfondir, comme on dit, d'Alizé Delpierre aux éditions de La Découverte. Notre attaché de production, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.